Imaginons une seconde une sculpture de glace absolument magnifique. Une œuvre d'art hyper complexe, pleine de détails fascinants, sur laquelle un artisan a passé des semaines entières. Sauf qu'au lieu de la placer dans une chambre froide pour la préserver, on la laisse délibérément en plein soleil, en plein milieu d'une place publique.
Ah ouais, c'est une image assez radicale. On crée de la beauté avec la certitude mathématique au fond qu'elle va disparaître.
Exactement. Le but, c'est pas du tout la préservation.
Ouais, on accepte la destruction.
Et c'est ça qui me fascine. L'objectif, c'est pas de figer l'œuvre dans un musée stérile pour l'éternité. L'objectif, c'est d'accepter que sa fonte, que sa disparition progressive face aux éléments, ça fasse partie intégrante du message.
C'est clair. On regarde pas l'œuvre s'abîmer en se disant que c'est un échec.
Non, on regarde l'éphémère bien en face, et c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut adopter pour notre exploration d'aujourd'hui. Nous sommes le 19 mars 2026, et il est grand temps de revenir sur une initiative culturelle marquante de la fin de l'année 2025.
Une initiative qui, justement, a joué avec cette notion de disparition et de trace.
Tout à fait. Notre source pour cette analyse, c'est l'archive en ligne et le portfolio d'une artiste multimédia qui s'appelle Clémence Bageux. Ce site, il documente un projet hors norme intitulé De l'art des sens aux oubliés. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment un projet artistique participatif a réussi un tour de force presque impossible.
À savoir créer des ponts solides, c'est ça, hein?
Voilà. Des ponts entre la société civile et des personnes dites empêchées ou lourdement marginalisées. Le tout confiné au sein d'une même ville, Cadillac-sur-Garonne. Bon, décortiquons ça, parce qu'on ne parle pas du tout d'une simple exposition dans une galerie bien chauffée.
Ah non, loin de là. Pour bien saisir la géographie du projet, il faut revenir au 8 novembre 2025. C'est la date du lancement d'une exposition itinérante, vraiment tentaculaire.
Ouais.
Elle s'est déployée à travers 5 lieux distincts de la ville, avec une déambulation qui était menée par la guide conférencière Léonore Ruzé.
Et ça s'est pas fait en un jour, cette histoire.
Ah non, pas du tout. Les racines du projet plongent jusqu'en 2023. Tout démarre en fait d'une impulsion commune entre l'artiste, donc Clémence Bageux, et une cadre de santé, Annick Sicali.
Et j'imagine que le milieu médical a imposé ses propres contraintes.
Exactement. Très vite, la réalité médicale a imposé de muscler l'équipe. Donc l'infirmière Béatrice Arambillé, ainsi que l'éducateur spécialisé Pierre Labat, les ont rejoints.
Et le défi architectural et même symbolique qu'ils se sont lancés est colossal. En gros, ils ont voulu relier l'hôpital psychiatrique, le centre de jour et un lieu au nom incroyablement lourd, le cimetière des oubliés.
C'est un nom qui donne des frissons, ouais.
Complètement. Relier ces espaces, au fond, c'est forcer la ville à regarder ses propres fractures. Et c'est là que l'analogie de la sculpture de glace prend tout son sens. Parce que le médium choisi pour cette exposition défie totalement la logique habituelle de l'art de conservation.
Ouais, et ce qui est fascinant ici, c'est l'utilisation du temps et de la météo comme co-auteurs de l'œuvre.
C'est-à-dire...
Ben, les photographies ont été tirées en format 40 par 60, ce qui est assez grand. Mais au lieu d'être sagement protégées sous verre, elles ont été installées de façon presque sauvage, à l'extérieur.
Dehors, en plein mois de novembre.
Dehors, oui. Livrées à la pluie, au vent, au froid, pendant un mois entier.
J'avoue que quand j'ai lu ça dans les notes, je me suis dit, c'est peut-être un problème de budget ou de logistique. Mais en creusant, on réalise que c'est une métaphore d'une précision redoutable, en fait.
Ah oui, c'est totalement intentionnel.
Exposer du papier aux intempéries, c'est incarner physiquement le temps, la mémoire et l'oubli.
C'est le cœur même du propos. Cette dégradation programmée, elle reflète, de manière presque clinique, ce que la société fait à la mémoire de ces personnes vulnérables.
Une forme d'érosion, en somme.
C'est ça. Une identité, un nom, une histoire humaine, ça s'efface, ça se délite, ça disparaît de la conscience collective si on ne fait pas l'effort conscient de l'entretenir. Le papier qui gondole sous la pluie, c'est la marginalisation rendue visible.
Ouais. Et il faut souligner que le sous-titre officieux de l'œuvre met bien les points sur les i. Les documents insistent lourdement sur le fait que de multiples partenaires se sont impliqués dès le départ.
C'est vrai, on parle de mairie, de banque, d'unité de soins.
Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une exposition sur, entre guillemets, la folie, c'est un vrai projet d'humanisme et de réhabilitation. Mais bon, pour réhabiliter, il faut d'abord entrer là où personne ne va.
Et ça nous amène directement au printemps 2024, à l'UMD, donc l'unité pour malades difficiles.
Un endroit pas très accessible au public, on est d'accord?
C'est l'un des espaces les plus fermés, par définition, du système psychiatrique. L'équipe a décidé de lancer une initiative à l'unité d'ergothérapie en faisant intervenir un artiste graffeur nommé Monsieur Poulet.
Monsieur Poulet, d'accord.
Ouais. L'objectif, c'était de créer une fresque collaborative avec une petite touche d'humour en impliquant directement les patients.
Ce qui a été filmé d'ailleurs.
Tout à fait. Toute cette dynamique a fait l'objet d'un documentaire de 15 minutes réalisé par Clémence Bageux. Le but, c'était que ce lien, tissé derrière des murs infranchissables, puisse exister à l'extérieur.
Bon, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable.
Vas-y.
Parce qu'en parcourant cette partie de l'archive, j'ai tiqué. On parle de l'UMD, c'est la haute sécurité de la psychiatrie. Les réalités cliniques qui sont extrêmement lourdes. Les parcours de vie des patients sont souvent fracturés par des violences ou des traumatismes profonds. Du coup, est-ce qu'on ne tombe pas dans une forme de naïveté en pensant qu'une fresque de street art, même hyper colorée, ça peut changer quoi que ce soit à une réalité médicale aussi écrasante?
C'est un scepticisme hyper légitime, et c'est souvent d'ailleurs le reproche qu'on fait à l'art-thérapie en général. Mais il ne s'agit pas de soigner une schizophrénie sévère avec une bombe de peinture.
Bien sûr.
Le documentaire répond d'ailleurs très bien à cette question à travers deux citations fondamentales. La première, c'est un constat très simple de l'équipe qui dit « Il se passe des choses dans ce lieu
Dans le sens où c'est pas juste un lieu de stockage, quoi.
». Exactement. C'est pas qu'un espace de contention, c'est un espace de vie. Et la seconde citation est encore plus explicite. Ils disent « Derrière la maladie, il y a l'envie de vivre ».
Donc, le but, c'est vraiment de percer l'armure du diagnostic médical.
Voilà, il s'agit de restaurer la dignité. Quand un patient participe à une fresque, pendant quelques heures, il est plus juste le malade de la chambre 4. Il redevient un individu capable d'agir sur son environnement, de créer du beau.
De collaborer avec d'autres.
Ouais, c'est pour montrer une autre image de la psychiatrie, tant pour les patients eux-mêmes que pour le regard extérieur. D'ailleurs, la création d'un jardin sensoriel a suivi, dans cet espace oublié. Ça prouve bien que l'art est un moteur pour se réapproprier les lieux.
Ça modifie complètement la perspective. Et cette volonté de redonner la parole, ça a fait tache d'huile au sein de l'institution. Parce qu'elle a inspiré une démarche un peu similaire dans une autre structure, le centre de jour, le CDG. Mais là, l'approche n'était pas du tout picturale. On a glissé vers le journalisme. Et je trouve ça brillant. Ils ont transformé des patients en enquêteurs de leur propre territoire urbain.
Des ateliers de journalisme ont effectivement vu le jour. C'est fou, hein? Les participants du centre de jour ont pris des dictaphones et sont partis interviewer des acteurs locaux.
C'est génial.
L'ambition, c'est d'être cartographié les liens historiques et sociaux entre trois épicentres de Cadillac, le château, l'hôpital psychiatrique et ce fameux cimetière des oubliés.
En lisant les transcriptions de ces interviews, j'ai eu une image en tête. En fait, l'histoire de Cadillac, ça ressemble à un jeu de poupées russes, mais des poupées russes de la marginalisation.
Ah oui, c'est une bonne comparaison.
À chaque époque historique qu'on ouvre, on découvre que la ville a pris un groupe d'individus, disons gênants ou vulnérables, et l'a caché exactement au même endroit géographique.
C'est une lecture sociologique très pointue, ouais. Si on prend l'interview de Pierre Rébaud, par exemple.
Oui, l'historien local.
Voilà, il remonte aux origines, sous le digue d'Épernon. À l'époque, la démarche se voulait presque humaniste. Le duc crée l'hôpital Marguerite pour y parquer les mendiants. On gérait déjà la misère sociale par la mise à l'écart.
C'est vieux comme le monde.
Mais Ribot, il met aussi en lumière des périodes beaucoup plus sombres. Il parle de la prison du château après 1952, où 450 femmes ont été entassées.
Je veux qu'on s'arrête là-dessus une seconde. 450 femmes, avec seulement deux salles de bain.
Ouais.
Comment une ville, comment une société tout entière parvient-elle à normaliser un tel niveau de déni d'humanité? C'est vertigineux de penser que ces femmes ont été pratiquement effacées des livres d'histoire locaux.
Et c'est pas le seul groupe exhumé par ces journalistes du CDJ. La guide Léonore Rouzet, elle, parle des soldats de la Première Guerre mondiale.
Ah oui, l'expression glaçante de l'administration.
Les mutilés du cerveau, c'est comme ça qu'on les appelait. Ce sont des hommes qui revenaient des tranchées avec des traumatismes psychologiques inouïs. Aujourd'hui, on parlerait de syndrome de stress post-traumatique sévère.
Bien sûr.
Mais Léonore Rouzet rappelle une réalité terrifiante. La psychiatrie de l'époque ne comprenait absolument pas ces symptômes. Conséquence tragique, certains de ces soldats traumatisés étaient purement et simplement fusillés.
Fusillés par leur propre camp.
Ouais, accusés de lâcheté face à l'ennemi. Elle évoque aussi, dans cette longue chaîne de drames, le destin de Marguerite B., une figure locale dont la vie a été broyée par l'institution.
C'est une plongée dans des abysses de tristesse, sincèrement. Mais l'archive s'arrête pas à la tragédie historique globale. Ce qui m'a vraiment touchée, ce sont les témoignages très intimes, presque minuscules, mais qui en disent si long.
Tu penses auquel?
Comme cette anecdote de Daniel Bonjour. Il raconte qu'il y avait un patient interné qu'on surnommait le professeur.
Ah oui.
C'était un ancien professeur de mathématiques. Eh bien, cet homme, toujours souriant malgré son enfermement, prenait le temps d'aider le jeune Daniel de l'époque à comprendre ses devoirs. L'interné devenait le tuteur, celui qui transmet le savoir.
C'est un renversement magnifique des rôles imposés par la société. En contraste total, on trouve aussi le témoignage de Mehdi, qui est lui d'une grande mélancolie.
Oui, à propos de Sébastien.
C'est ça. Il parle de son collègue Sébastien, un homme qu'il décrit comme très ouvert, travaillant aux palettes, parlant à tout le monde. Et pourtant, quand Sébastien est décédé, Mehdi décrit son choc absolu face à des funérailles complètement vides. Il a été enterré sans personne.
Personne n'est venu. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que tout ce travail de mémoire, ces dictaphones, ces larmes, ces découvertes, ça n'est pas resté confiné au centre de jour. En juillet 2025, un pont physique s'est créé. Un goûter a été organisé et l'atelier poterie et bois de l'UMD a rencontré les journalistes en herbe du CDJ.
C'est une rencontre improbable sur le papier. La haute sécurité qui vient échanger avec la structure de jour. Les artisans qui montrent leur sculpture en bois à ceux qui viennent de documenter l'histoire des mendiants et des soldats fusillés.
Et un artisan de l'UMD lâche cette phrase que j'ai surlignée 3 fois dans mes notes. Chaque activité a sa thérapeutique.
C'est très fort.
Qu'on taille un bout de bois ou qu'on interviewe un historien, le mécanisme de guérison est le même en fait. On laisse une trace, on interagit, on prouve qu'on existe. Ce qui nous amène logiquement à l'étape suivante.
Après avoir enquêté sur l'histoire de la ville, il a fallu enquêter sur soi-même.
Exactement. Après avoir documenté les autres, les participants ont dû se documenter eux-mêmes.
C'est toute l'essence de l'atelier photographique. Réaffirmer l'identité propre de personnes que l'institution a souvent réduite à un simple numéro de dossier médical.
Et la consigne de cet atelier photographique m'a beaucoup fait réfléchir.
Raconte.
Chaque participant devait choisir un seul mot et un seul objet qui lui ressemble, pour un portrait. Imagine la difficulté. C'est pas un petit jeu amusant. C'est comme faire ses bagages en urgence absolue au milieu de la nuit parce que la maison brûle.
Ouais, et qu'on a le droit de sauver qu'une seule chose.
Exactement. Un seul objet physique qui résume tout notre passage sur Terre. C'est comme créer un avatar. Comment on distille toute la complexité d'une vie, surtout une vie souvent cabossée, en un seul artefact?
L'exercice requiert une introspection colossale, ça c'est sûr. Et Clémence Bageux a fait un choix esthétique très fort pour ses portraits. La couleur sépia.
Ah oui, le sépia.
C'est pas juste un petit filtre Instagram nostalgique. Le sépia, c'est la couleur de la conservation. C'est la couleur archétypale de ce qui a de la valeur dans nos propres archives familiales.
Nos vieux albums.
Voilà. Utiliser le sépia sur des personnes vivantes, souvent invisibilisées par le système, c'est déclarer visuellement ces vies méritent d'être archivées avec la même précaution que les grands événements historiques. C'est un refus catégorique de l'oubli.
C'est puissant.
Et l'atelier s'est également appuyé sur les 5 sens primordiaux. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Pour ancrer ses portraits dans une physicalité indéniable.
Regardons un peu quelques-uns de ses choix, parce qu'ils sont d'une poésie incroyable. Il y a Frédéric. Son mot, c'est « l'enfant et l'objet qu'il sauve des flammes métaphoriques, c'est une petite figurine de pirate ».
Ouais.
Pourquoi ? Bah parce que ça lui permet de rire et de s'évader avec son petit-fils.
Et il y a Hélène aussi. Elle, elle a choisi une cuillère. Le mot associé est « l'espérance ». C'est un détournement brillant de l'expression « naître avec une cuillère en argent dans la bouche ».
Ah oui, bien vu.
Elle n'est pas née avec cette cuillère. La vie l'a pas choyée, c'est évident. Mais en choisissant cet objet, elle affirme son espoir acharné de la trouver un jour, cette cuillère. C'est pas du ressentiment, c'est une vraie pulsion de vie.
Marie-Ange, elle, s'est présentée avec une carafe d'eau associée à l'espoir. Elle explique sa routine quotidienne, elle filtre l'eau de sa carafe. Et en fait, elle projette sur cette action mécanique le désir que ses relations avec ses proches soient aussi pures et filtrées de toute toxicité que cette eau.
C'est beau.
Il y a aussi Mehdi, qu'on a évoqué tout à l'heure avec le cercueil vide de son ami. Son objet, à lui, fait une balle de tennis. Ça lui rappelle sa chienne qui ramenait les prospectifs. Un souvenir minuscule, banal pour beaucoup de gens, mais qui pour lui est une encre émotionnelle puissante qui suffit à lui redonner le sourire.
Et puis on a Nadine, avec la disponibilité. Son objet, c'est une gamelle de pâte.
J'adore.
C'est un symbole tellement universel. La gamelle de pâte, c'est l'anti-solitude par excellence. C'est le repas qu'on partage, c'est la table ouverte, c'est la chaleur humaine qu'elle se sent encore capable d'offrir au monde malgré tout.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, ces portraits grand format n'ont pas été cachés. Ils ont été placardés en plein centre-ville, au jardin du château, à l'office de tourisme, aux grilles du cimetière.
Partout dans la ville.
Les habitants de Cadillac, qui allaient juste, je sais pas, acheter leur pain, y croisaient le regard d'Hélène et de sa cuillère, de Nadine et de ses pattes. C'est une effraction bienveillante dans l'espace public. On force le passant à voir des grands-parents, des cuisinières, des joueurs. On désintègre totalement l'étiquette effrayante de « patient de l'hôpital psychiatrique ».
L'identité est donc réaffirmée par l'image, face aux citoyens, mais le projet comportait une dernière strate, un ultime besoin à assouvir. Le besoin d'évasion pure.
Et ça, c'est passé par la musique, la chanson. L'archive audio de ce projet, c'est peut-être l'élément qui m'a le plus retourné le cerveau.
Vraiment ?
Ouais. On parle d'un projet écrit en 2024 par 4 participants de l'UMD. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, haute sécurité, enfermement, porte verrouillée. Ces 4 personnes s'associent avec des étudiantes en musicologie pour écrire un texte. Et de quoi ils parlent ? Le titre, c'est PS, don't forget, les vacances d'été. Ils écrivent sur les cocktails à l'hôtel, sur le soleil qui tape sur la peau à la plage.
Le paradoxe est criant. On pourrait penser que l'enfermement pousserait à écrire des textes très sombres, oppressants. Au contraire, ils utilisent la musique comme une machine à téléportation.
Oui, s'échapper en esprit.
C'est l'espace de liberté imaginaire par excellence. Et le centre de jour a ensuite pris cette matière sonore pour en faire un clip de 5 minutes 53.
J'ai écouté les paroles et je dois dire que c'est très loin d'être une simple ritournelle légère. C'est de la poésie de survie.
Complètement.
Ils parlent d'un désir viscéral de s'évader comme une libellule. Ils évoquent les moments de joie passés comme des graines de bonheur que l'on sème. Et parfois, la violence de leur quotidien brise ce mirage de la plage, notamment avec ce vers glaçant où l'un d'eux exprime le besoin de ne plus parler de sa vie comme d'une daube.
Il faut s'arrêter sur cette phrase. Ne plus parler de sa vie comme d'une daube. C'est l'expression directe d'une souffrance liée à la perte d'estime de soi que provoque l'enfermement psychiatrique de longue durée.
C'est très brut.
La réalisation sonore de ce morceau est d'ailleurs pensée pour refléter cette complexité psychique. Ils ont enregistré 2 intentions de voix distinctes.
Ah oui, j'ai remarqué ça.
L'une lumineuse, presque aérienne, qui porte l'espoir et l'évasion, et l'autre, beaucoup plus intimiste, ancrée, qui murmure la difficulté du présent. Ces 2 voix se superposent, exactement comme l'esprit humain jongle en permanence entre le traumatisme et le rêve.
Et ce qui rend cette archive encore plus belle, c'est que cette démarche de création n'est pas restée isolée entre les murs de l'hôpital. Quand le projet aboutit à l'exposition finale en novembre 2025, c'est comme si toute la ville de Cadillac avait cousu les morceaux ensemble.
C'est vrai que le tissu social a joué le jeu.
On a vu l'ESHPAD, l'espace, s'impliquer en créant des tricots urbains pour baliser le parcours dans les rues. Et l'unité Regain a cousu des fleurs en tissu. Elles ont été spécialement fabriquées pour être déposées au cimetière des oubliés, là où reposent ceux qui n'ont pas eu droit à de vraies funérailles, comme le collègue de Mehdi. C'est une chaîne solidaire hallucinante quand on y pense.
Ouais, c'est impressionnant. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on réalise que Clémence Bageux, les soignants, les patients, les historiens locaux, ils ont fait bien plus que de l'art. Ils ont créé un maillage de mémoire actif.
Un maillage de mémoire, j'aime bien l'expression.
Ils ont pris une ville fracturée par son histoire médicale et carcérale. Et ils ont forcé les coutures pour tout rassembler. Le temps de quelques mois, Cadillac est devenu un musée vivant. Un vrai laboratoire d'empathie à ciel ouvert.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? À l'échelle de notre quotidien, quiconque écoute peut y voir une invitation pressante à regarder au-delà des murs de nos propres villes. On passe tous les jours devant des institutions, des EHPD, des centres de soins, en détournant le regard, par habitude ou par malaise.
Souvent par malaise, oui.
Ce projet prouve que la ligne de faille entre, disons, nous et les oubliés, c'est juste une construction sociale qu'on peut démonter. L'art, ici, n'est pas une décoration, c'est un bélier qui défonce l'indifférence.
Et c'est une réussite indéniable, ça a marché. Mais cela soulève une question importante, un paradoxe moderne sur lequel il faut se pencher en refermant ce dossier.
Laquelle ?
Ben, si on repense à l'analogie de notre introduction. Ces superbes photographies 40 par 60 en extérieur, ces visages sépia de Frédéric, Hélène et Nadine, elles ont subi les intempéries de 2025.
Oui, elles ont été exposées aux éléments.
Elles ont pourri, gondolé et fini par physiquement disparaître. Elles ont accompli leur mission éphémère. Mais aujourd'hui, un an plus tard, en 2026, la seule trace tangible qui subsiste de ces vies et de ce projet, c'est l'archive numérique.
C'est vrai ?
Ce site internet, ces fichiers audio, ces pixels que nous venons de consulter.
L'ironie est forte. On a lutté contre l'oubli physique de ces gens pour finalement tout figer dans le cloud.
Précisément. À notre ère de la numérisation frénétique, on pourrait se demander si ces immenses serveurs, ces archives en ligne parfaites et inaltérables, c'est pas en train de devenir au final nos nouveaux cimetières des oubliés.
Ah ouais, vu comme ça ?
Ce sont des espaces de stockage d'une capacité infinie, c'est sûr. Mais où plus personne ne vient se promener par hasard. On n'y trébuche plus sur un souvenir comme dans la rue. Pour trouver le portrait de Nadine ou l'écouter la chanson de l'UMD aujourd'hui, bah, il faut y être guidé intentionnellement par un algorithme ou faire une recherche très spécifique.
L'archive est parfaite, mais elle est invisible si on ne la cherche pas activement.
C'est ça. C'est une vraie interrogation sur la manière dont on délègue notre mémoire aux machines. On pense que la sauvegarde technique remplace l'acte humain, l'effort humain de se souvenir.
C'est une pensée incroyablement provocatrice pour terminer. On numérise pour sauver de l'oubli, mais si personne ne visite l'archive, le silence reste exactement le même qu'avant.
C'est le risque, oui.
Ce projet, au fond, nous rappelle que la mémoire n'est pas un disque dur, c'est un muscle. Si on ne s'en sert pas pour aller vers les autres, il s'atrophie. Gardons l'œil ouvert sur ceux qui nous entourent, avant qu'ils ne deviennent, eux aussi, de simples données.